tout d'abord, merci aux organisatrices et organisateurs du séminaire du LAMES de m'avoir proposé de présenter mon travail ici aujourd'hui. Je vais donc vous parler de l'ouvrage intitulé « La République et ses autres, politiques de l'altérité dans la France des années 2000 », qui est donc, comme le disait Ariane, issu de ma thèse et qui est paru en mars dernier chez ENS Éditions. Je vais procéder de la manière suivante. Je reviendrai d'abord sur les modalités d'effectuation de l'enquête et la méthode choisie, puis je restituerai mon cheminement et la manière dont j'ai construit mon objet en articulant l'examen de deux politiques, la lutte contre les discriminations raciales et la naturalisation, qui ne vont pas nécessairement ensemble. J'essaierai de montrer à ce moment-là en quoi cette articulation s'est révélée heuristique et dans quelle mesure elle rendait opératoire une problématisation en termes de racialisation. Enfin, je reviendrai sur les principaux résultats de mon travail. Une remarque préliminaire sur mon choix de formulation, je dirais systématiquement politique de lutte contre les discriminations raciales, même si l'un des enjeux pendant l'enquête et le travail d'écriture a été la manière dont ces politiques ont été désignées, et notamment l'occultation du caractère racial, du type d'inégalité contre lequel les politiques mises en place étaient censées agir. Alors, quelques éléments sur l'enquête de terrain. D'abord, pour la période et le lieu, donc j'ai enquêté d'octobre 2004, au moment de mon tout début de mon DEA, jusqu'à août 2009, dans une ville de la région parisienne que j'ai appelée Doucy pour maintenir l'anonymat, et dont l'histoire se confond avec l'histoire de l'immigration en France, avec cette particularité qui est celle d'avoir une forte population originaire d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est. Et au moment de l'enquête de terrain, 11% de la population était de nationalité étrangère et beaucoup d'habitants de cette ville étaient eux-mêmes issus de familles ayant migré en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, cette ville a été choisie parce qu'elle était à la fois le siège de la préfecture où étaient présents les dispositifs mis en place par l'État central, que ce soit ce qu'on a mis en place à la fin des années 90, c'est-à-dire les commissions départementales d'accès à la citoyenneté, les CODAC, et puis ensuite, au début des années 2000, les COPEC, qui les remplaçaient, qui étaient donc les commissions pour l'égalité des chances et la citoyenneté. Donc ça me permettait d'avoir cet aspect-là des politiques de l'État en matière de reconnaissance et de politique de lutte contre les discriminations raciales. Et en même temps, il y avait une majorité municipale dans cette ville, une majorité de gauche plurielle, très engagée sur la question de la reconnaissance des discriminations raciales et d'une affirmation plus générale de la diversité. Donc, ça permettait d'avoir une espèce de regard transversal, en fait, à la fois sur la politique de l'État, les actions mises en œuvre par la majorité municipale, parfois aussi en collaboration avec les associations locales ou d'autres structures publiques, notamment les dispositifs d'accompagnement à l'emploi, que ce soit les missions locales ou le plan local pour l'insertion et l'emploi, ou encore les espaces dynamiques d'insertion. Et dans le cas de la mission locale comme d'un espace dynamique d'insertion, c'est aussi des endroits où j'ai passé une enquête, partie de mon enquête de terrain. Alors justement, il s'agissait d'une enquête ethnographique, par immersion longue dans un milieu d'interconnaissance, avec un travail de réflexivité sur ce que produisait, ce que pouvait produire mon positionnement et ma relation d'enquête sur le recueil de matériaux et les résultats obtenus. Et si vous regardez le livre, vous voyez qu'au début, il y a des éléments réflexifs généraux que je présente dans l'introduction générale. Et puis après, dans chaque chapitre, je reviens sur les éléments spécifiques à la partie de l'enquête et dont je tire le matériau pour chaque chapitre. Par exemple, je reviens dans l'introduction générale sur ce que cela produit de travailler sur les processus de racialisation quand on est soi-même minoritaire mais non immédiatement perçu comme tel, ce que ça a fait aussi au moment où moi-même je révélais mes origines, sur les modes de complicité qui pouvaient apparaître avec mes enquêtés, mais en même temps les formes d'explicitation moindre à partir du moment où ces enquêtes étaient postulées, une complicité et une communauté d'expérience. D'autres, par exemple, pour prendre un autre chapitre sur la politique de naturalisation, il y a une attente dans le chapitre où je travaille vraiment sur les interactions entre postulants et agents du bureau des naturalisations, et une attention portée aux malentendus possibles entre agents et postulants. Et un des éléments qui a orienté d'autant plus fortement mon attention à ça était le fait que moi-même j'ai intégré ma propre procédure de naturalisation à mon enquête et que je la menais en même temps que l'enquête en ayant en amont l'expérience aussi des procédures de renouvellement de carte de séjour et de toutes ces interactions avec des agents du service des étrangers. Donc il y a eu de l'observation participante, il y a eu aussi de la participation observante dans ce travail, j'ai donc à la fois assisté aux réunions qui étaient organisées au sein de la COPEC, à des événements organisés par la préfecture dans le cadre de sa politique de mobilisation contre les discriminations. Par exemple, il y a eu une semaine de l'égalité des chances, ou le lancement d'un programme de recherche et d'évaluation mené par le FACIL, donc l'ancêtre de l'accès. Pour avoir accès aussi à des personnes susceptibles d'être victimes de discrimination raciale, j'ai fait une immersion répétée dans plusieurs mois au printemps 2006, puis à l'été 2008 dans un centre d'insertion professionnelle pour jeunes, où j'animais notamment un atelier sociaux où on partait de textes et l'idée c'était de susciter une parole sur l'expérience personnelle de ces jeunes. Et puis donc, du côté de la politique de naturalisation, j'ai mené des observations au guichet du service des naturalisations, qui est donc aussi en préfecture, en assistant aux entretiens dits d'assimilation linguistique, aux séances de prise d'empreintes des nouveaux naturalisés au moment de l'établissement de leur carte d'identité, et puis en observant les cérémonies de remise des décrets de naturalisation organisés dans ce département à la fois par la mairie pour l'ensemble du par la préfecture pour l'ensemble du département et par la mairie de Doucy pour les habitants de la commune. Donc ça permettait aussi de comparer ce que je fais dans le dernier chapitre du livre entre les modalités, les formes de, les modalités différenciées entre la mairie et la préfecture. Et puis bien sûr, ces observations ont été couplées à un travail d'entretien avec des responsables politiques, des hauts fonctionnaires, des chercheurs ayant concouru à l'émergence d'une question des discriminations raciales, des agents de préfecture, des personnes naturalisées et des personnes susceptibles d'être victimes de discriminations raciales. Et puis pour travailler un peu, pour avoir des éléments sur la période qui avait précédé mon entrée sur le terrain, donc toute la période concernant les CODAC, qui ont été mises en place en 98, et qui ont fonctionné jusqu'à 2001 à peu près. J'ai aussi travaillé à la fois sur la base d'entretien réalisée avec des personnes qui avaient circulé entre ces dispositifs, mais aussi sur des rapports, surtout toute la littérature grise qui a existé à l'époque et qui a amené en tout cas ou a contribué à l'émergence d'une question des discriminations raciales. Alors donc c'est un travail, que ce soit du côté des politiques de lutte contre les discriminations raciales ou du côté de la naturalisation, ce que je me suis attachée à faire et ce que j'essaie de continuer de faire dans mes recherches actuelles, c'est de tenir toujours les institutions et les sujets. C'est-à-dire de voir à la fois comment l'État encadre les individus et comment aussi ces derniers se réapproprient les formes de contraintes qui leur sont imposées dans ce qu'on pourrait appeler des épreuves institutionnelles. Et avec cette idée aussi que le gouvernement des individus ne produit pas seulement de l'assujettissement, mais aussi des formes de subjectivation. Donc il y a l'idée de travailler à la fois à une ethnographie de l'État et une ethnographie des expériences et des postures personnelles, aussi bien du côté des personnes administrées d'ailleurs que du côté des agents, et de ce que, par exemple, le travail qu'on leur demande de faire les amène à développer comme posture ou comme positionnement. Par exemple, la conception de la nation, de l'octroi de la nationalité que développent les agents des bureaux de naturalisation en essayant de tenir, quand j'avais les informations, de tenir ça avec leur entrée dans le service, leur formation, leur origine familiale, les rapports de genre à l'intérieur de ces services, etc. Et l'essai de réinscrire en fait ces services dans les rapports de pouvoir qui existent entre différents services, par exemple au sein d'une préfecture, en ayant à l'esprit que les bureaux de naturalisation et plus généralement les services qui s'occupent des étrangers sont dévalorisés, avec des effectifs moindres, etc. Et tout ce que cela produit sur l'octroi de la nationalité et la conception aussi de cette politique, de ces pratiques de nationalité, de naturalisation. Donc, il y a par exemple dans le chapitre 4 qui porte sur la procédure de naturalisation une typologie des agents et de leur posture professionnelle et politique en fait, où j'ai repris des éléments, je me suis inspirée du travail qu'avait fait Alexis Spire sur les agents de préfecture et les agents dans les services de visa des consulats pour essayer de distinguer entre trois types que j'ai appelés les gardiennes de l'ordre national, les missionnaires, qui est en fait la façon dont un certain groupe s'auto-désignait comme étant celle qui faisait attention aux postulants, et puis les bienveillants. Le travail ethnographique permettait de faire ça. Ça permettait aussi de voir comment les agents circulent au même moment, sont sur plusieurs services, et ça permettait de voir aussi le rôle des pratiques professionnelles acquises dans la manière de se représenter ce qu'on a à faire quand émerge une nouvelle question. Je pense à une des agents de préfecture qui a commencé, que j'ai appelé Daniel Durand dans le livre, qui est agent de catégorie C, qui entre, qui est formé au service des étrangers aux reconduites à la frontière, comme c'est souvent le cas, qui se retrouve après au service aussi au bureau de la citoyenneté, qui va être secrétaire de la CODAC quand la CODAC est mise en place, et qui siège, après avoir aussi travaillé au bureau du logement et avoir siégé du côté des bailleurs, se retrouve à traiter des dépôts de plaintes pour discrimination au logement, et comment elle, en fait, le récit qu'elle me fait de son travail, requalifie quasi systématiquement les plaintes pour discrimination en disant finalement, en fait, c'était pas ça, le loyer n'avait pas été payé. Et en fait, ce qui était frappant, c'est l'espèce de montée en généralité à partir des cas qu'elle avait eu à traiter, qui lui permettait en fait de disqualifier de manière générale l'existence même de discrimination au logement. Et là, ce qui était frappant, c'était de voir comment en fait le fait d'avoir été d'abord du côté des bailleurs produisait, ça lui rendait extrêmement difficile en fait de passer de l'autre côté et de se représenter ce qui se jouait pour les personnes qui déposaient une plainte, quand à cela s'ajoutait des différenciations et des modes de distinction justement par rapport à ces personnes qui étaient des requérants, disons, et avec lesquelles elles ne se reconnaissaient pas en termes peut-être pas de classe sociale, mais en tout cas justement de racialisation et et d'origine. Voilà pour les éléments sur l'enquête. Et donc, ce que j'ai essayé de faire en tenant ces deux formes de politique, deux politiques, une politique récente qui a donc fait l'objet d'une reconnaissance tardive et en demi-teinte, en fait, c'est aussi ça qu'on voit au terme de ce que j'ai vu au terme de mon enquête, et une politique plus ancienne et plus ancrée, qui est la politique de nationalité. Peut-être juste pour vous donner des éléments de cadrage historique rapide sur le moment et cette histoire de reconnaissance de la question des discriminations raciales en France. En fait, au départ, quand la question émerge, on est en 1998, et ça émerge de manière antérieure aux directives européennes qui vont, elles, après donner une impulsion et amener en 2000 l'élément notamment juridique et le fait d'introduire dans le droit français les dispositions qui étaient liées à la directive dite race, qui est donc une directive qui est au départ une directive européenne. Mais la question émerge en amont en France, et donc dès 98, et ça tient un faisceau d'éléments. D'abord, il y a le contexte national, les élections régionales de 98 qui voient arriver le FN dans certains conseils régionaux. Il y a le programme Nouvelle Gauche avec toute l'idée de mener une nouvelle forme de politique d'égalité. C'est le moment aussi où se discute la loi sur le pacte, la loi sur la parité. Et puis, il y a aussi au niveau européen l'élection de Jörg Haider en Autriche qui produit aussi une sorte de prise de conscience d'une menace et d'une question qui est restée ouverte autour de la menace de l'extrême droite et la question du racisme. Et parallèlement à ça, en fait, il y a des enquêtes qui sont menées. Alors, il y avait les travaux de l'URMIS et puis les travaux du CADIS. Et le CADIS a eu, donc l'enquête menée par Philippe Bataille, qui a donné le livre Le racisme au travail, était une enquête au départ commandée par la CFDT, qui s'inquiétait de voir monter aussi au sein de ces sections du racisme, en fait. Cette enquête commandée par la CFDT va donner après au travail de Philippe Bataille une passerelle avec le monde politique du fait des liens qui existaient entre Martine Aubry et la CFDT. Et donc à partir de ce moment-là, Martine Aubry, qui est ministre de l'Emploi, va elle-même s'approprier la question et en faire sa question au sein du gouvernement Jospin, d'où le discours du 21 octobre 1998 qu'elle fait devant le Conseil des ministres et qui est un peu le moment de lancement de la politique. C'est à partir de là qu'on décide de créer les CODAC, que le groupe d'études des discriminations est mis en place, etc. Avec les assises de la citoyenneté en 2000, on passe au groupe d'études et de lutte contre les discriminations et on met en place aussi le système d'écoute du 114. Alors tout de suite, en fait, c'est une politique qui est bicéphale puisque c'est porté à la fois par le ministère de l'Emploi et puis il y a aussi le ministère de l'Intérieur qui est à ce moment-là dirigé par Jean-Pierre Chevènement qui est associé et qui va lui être chargé de créer et de mettre en œuvre ces dispositifs au sein des préfectures, donc ces fameuses commissions départementales d'accès à la citoyenneté. Et on voit tout de suite, en fait, déjà dans les dénominations, l'opposition qui va se nouer progressivement dans ces années entre, disons, un positionnement républicain critique, qui serait celui de Martine Aubry, disons, et un positionnement républicain souverainiste ou nationaliste qui va être celui de Jean-Pierre Chevènement. Ça se voit même dans les dénominations des dispositifs qui dépendent de l'un ou de l'autre des ministères, puisque du côté des dispositifs qui dépendent du ministère de l'Intérieur, on continue à privilégier le vocabulaire de la citoyenneté et on ne parle pas du tout de discrimination. Et dans les travaux des commissions, c'est pour ça aussi que moi au départ j'ai été amenée à travailler sur la naturalisation, alors que ce n'était pas du tout ce sur quoi je pensais travailler, c'est essentiellement de naturalisation qu'on a parlé et qu'on a travaillé. Et la question des discriminations a tout de suite été remise dans une lecture en termes d'intégration et de droit au séjour et de pérennisation du séjour par l'incorporation à la nation. Et donc pour continuer sur cette chronologie très rapide, une fois après la défaite de Lionel Jospin aux élections de 2001, il y a un coup d'arrêt qui est mis aux activités de ces commissions et aux activités du GELD, etc. Mais la question des discriminations, plus généralement, pas simplement la question des discriminations raciales, est reprise après un moment de latence par la droite dans le cadre de ce qu'on a appelé la refondation du pacte républicain. Et donc c'est ce que Vincent Arnaud Chappe dans ses travaux sur la Halde appelle l'universalisation de la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire que on va ouvrir à tout. Alors c'est un mouvement européen par ailleurs, hein, d'ouverture et à toutes les formes de discrimination et de fusion au sein de fusion des dispositifs qui étaient jusque-là des dispositifs spécifiques. Et donc on ouvre à toutes les discriminations avec l'imposition d'une lecture du fait discriminatoire qui opère en fait une déhiérarchisation et une déspécification des formes de discrimination qui se manifestent, avec dans l'idée que se focaliser sur la seule question raciale reviendrait à discriminer les autres victimes, les victimes d'autres types de discrimination. Donc en fait, il y a une double idée à ce moment-là, c'est-à-dire ne pas créer de noyau de groupe de référence, ce qui finirait par mettre en péril le système républicain et donc ainsi éviter des formes de controverses sur les présupposés universalistes du système républicain. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va aussi défaire, donc il n'y a plus les Kodak, on les remplace par les Copec, mais alors que les Kodak avaient à la fois la charge de la politique de reconnaissance, mais aussi la politique de justice, de recueil des plaintes et de travail avec la justice, on enlève ça de ces dispositifs placés en préfecture et on crée la HALDE qui est censée, elle, mener la politique de réparation. Et donc, en fait, il y a eu une espèce de double mouvement au moment où moi j'ai vraiment commencé à faire du terrain, c'est-à-dire qu'on a utilisé l'argument juridique et la lecture juridique de la discrimination pour dépolitiser la question des discriminations. Et puis, à partir du moment où les dispositifs ont été mis en place, ce qui apparaît aussi, c'est que dans le positionnement des agents de l'État, au niveau des COPEC, hein, la HALDE, c'est différent, mais au niveau des COPEC, il y a eu en même temps... ce qui apparaissait des pratiques observées, c'est la non-prise en compte de l'effectivité du droit antidiscriminatoire. Donc, en fait, dans un deuxième temps, ce qui apparaissait, c'est qu'il y a eu aussi une déjudiciarisation de l'antidiscrimination. Alors, donc je vous disais qu'au départ, le lien entre lutte contre les discriminations, enfin, question des discriminations raciales et naturalisation, ça n'allait pas de soi, et d'ailleurs dans mes premières années de thèse, quand c'était dans le séminaire et qu'il fallait présenter son travail, ça suscitait toujours une gêne assez grande, parce que j'avais l'impression de présenter un objet complètement bancal sur deux politiques qui étaient différentes l'une de l'autre. Et ça n'allait pas de soi, comme je vous le disais, puisque d'un côté il y avait une politique récente et peu légitime dans le contexte républicain, de l'autre une politique ancienne et qui se conçoit comme l'un des lieux d'expression et d'affirmation de la souveraineté nationale et du pouvoir discrétionnaire de l'État, une politique qui interroge les frontières internes de la société, ce que la langue anglaise désigne par « boundaries », et qui souligne les formes d'inégalité persistant au-delà de la seule distinction entre étrangers et nationaux, et d'autre part, une politique qui se focalise sur l'incorporation à la nation comme principal levier d'égalité. Enfin, une question qui émerge d'abord dans des espaces relativement marginaux, que ce soit dans les laboratoires où cette question apparaît, dans les centres de recherche appliqués qui lancent les premières enquêtes, etc., et qui est en partie imposée de l'extérieur, du fait de l'impulsion européenne et du rôle de la transposition des directives européennes dans le droit des États membres, et une politique centrale qui s'inscrit dans l'histoire longue de l'État, si on repense aux travaux de Patrick Veil, par exemple, ou de Gérard Mont. Pourtant, comme souvent dans la recherche, en fait, l'objet sur lequel on travaille met du temps à se définir et sa définition s'affine progressivement tant qu'apparaissent les articulations qui rendent les choses plus heuristiques. Et en fait, ce qui apparaissait, c'est que, intéressant, c'était de voir qu'au moment précisément, au moment où émerge la question des discriminations raciales, et qu'on se dit enfin, on va essayer de penser les questions, le rapport entre égalité et différence au-delà de la seule question de la frontière entre étrangers et national, pour penser autrement l'économie des relations entre égalité, identité et citoyenneté. Ce qu'on voit, c'est en fait qu'à ce moment-là, les pouvoirs publics qui sont chargés de mener à bien cette politique qui serait une reconfiguration des politiques d'altérité, si pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage, investissent de manière inédite la naturalisation, notamment à travers l'institution de cérémonies de remise des décrets de naturalisation qui mettent, elles, en avant la symbolique ambivalente de l'entrée dans la nation. Donc, c'est sur cette espèce, voilà, sur l'articulation et sur la façon dont on a été finalement rattrapé par une lecture en termes d'entrée dans la nation, de conception univoque de l'appartenance nationale, etc. Et donc, à partir de là, l'enjeu pour moi était de réfléchir aux formes de problématisation de l'altérité dans le contexte républicain colorblind. En fait, du coup, voilà, en travaillant sur ces deux politiques, ça m'a permis de saisir ce que j'ai appelé les politiques française de l'altérité, c'est-à-dire les discours et les pratiques qui formalisent la manière dont la République administre celles et ceux définis comme autres, qu'il s'agisse d'étrangers, sollicitant la nationalité ou pas, de personnes naturalisées ou plus généralement de citoyens français racialisés. Et donc en m'attachant à saisir l'échec de la politique de lutte contre les discriminations raciales et l'affirmation d'une manière univoque d'appartenir à la nation via l'examen de la procédure de naturalisation, et j'ai essayé de mettre en évidence la manière dont les processus de racialisation opéraient au sein d'un contexte républicain défini comme colorblind. Alors, juste peut-être quelques précisions sur la notion de racialisation. Je n'ai pas entré dans toute la discussion sur la généalogie de la notion, de Du Bois à Fanon, même si c'est à Fanon qu'on attribue la notion. En fait, Du Bois utilise le verbe « racialize ». Dans ces textes, et Fanon connaissait les textes de Du Bois, donc il doit y avoir sans doute, il y a eu sans doute circulation. Mais j'entre pas dans ce débat, ni sur les débats qu'il y a eu au sein des sciences sociales britanniques entre Robert Miles et Michael Burmington. Ce que je vais juste dire, c'est comment j'utilise cette notion dans mon travail. Pour moi, l'enjeu principal, c'était que la notion permettait de voir comment une société produit à un moment donné du racial. Voilà, dans un contexte de comment, en partant du principe que les relations raciales sont des relations construites et produites socialement, l'idée c'était de montrer comment ça se fait dans un contexte particulier. Et donc comment les caractéristiques physiques servent de support et varient d'une configuration sociale et historique à une autre. Donc la notion de racialisation, elle permet d'insister sur le caractère processuel de la construction raciale, et elle montre ainsi comment cette construction est par définition éphémère et labile. Et que d'ailleurs, elle ne correspond pas toujours aux caractéristiques physiques que le raciste tient, lui, pour racial. Quand on pense, par exemple, on peut penser aux usages qui sont faits de la culture pour racialiser un groupe, on peut penser aussi à la manière dont la couleur de peau ne joue pas toujours dans le sens qu'on imagine si on pense à tous les phénomènes de blanchissement de groupes de population aux États-Unis. Comment les Juifs sont devenus blancs, comment les Irlandais sont devenus blancs, comment les Suédois sont devenus blancs. Donc ça permet aussi de couper avec l'illusion coloriste, de croire que les formes de racialisation et de hiérarchisation raciale ne collent qu'à la couleur de peau. Et c'est pour ça que moi j'ai essayé d'intégrer aussi la question de l'islam dans les formes de racialisation. Donc en fait, travailler sur la racialisation, ça permet de reconnaître un geste, et c'est en ça que c'est un concept qui permet d'expliciter et de problématiser, en fait, et c'est important en même temps de... Alors je dis ça, on pourrait me dire, oui, mais alors qu'est-ce qui distingue la racialisation du genre? Si c'est juste une façon d'hierarchiser, pourquoi on ne parlerait pas de genre ou de classe? Alors je pense que ce qui distingue même si l'idée c'est de penser tout ça ensemble, c'est que dans le geste précis de hiérarchisation, dans le cas de la racialisation, il repose toujours sur l'assignation à une origine, réelle ou non, pensée comme inférieure ou du moins comme subalterne, et qu'après, vous avez des éléments corporels qui sont mobilisés comme ce qui manifeste cette origine ou ce qui montrerait l'altérité radicale du groupe racialisé. Et donc, puisque je parle de classe et de genre, ce que j'ai essayé de faire aussi dans mon travail, ça a été de garder aussi, c'est-à-dire de garder une lecture intersectionnelle et dynamique de ces rapports de pouvoir, en partant du principe qu'on n'est jamais seulement un ouvrier ou seulement une femme ou seulement une personne noire, mais qu'on est tout ça à la fois et que par ailleurs, selon les moments, il y a des interactions entre ces processus de hiérarchisation. Il y a un moment que je décris, c'est une interaction justement entre Danielle Durand et sa supérieure hiérarchique qui est plus jeune qu'elle et qui est originaire de Martinique et qui est plus diplômée qu'elle. Et la manière dont justement Danielle Durand racialise comme noire sa collègue que j'ai appelée Nicole François Rose et que aux yeux de Danielle Durand en fait l'origine bourgeoise, l'attention portée à son habillement, ses diplômes, la proximité qu'elle avait avec moi pendant l'entretien a fait remonter encore plus fortement à ses yeux le fait que Nicole François Rose était noire. Donc à un moment où Nicole François Rose revient sur son histoire familiale et dit qu'elle elle s'est pas tellement sentie assignée parce que sa mère ne paraissait pas noire, Danielle Durand la ramène, ah bon, mais je comprends pas, mais si, tu veux dire en Martinique, on la prenait pas pour une femme noire, mais ici quand même. Et donc voilà, ce qui me paraissait important, c'est de voir aussi comment, selon les moments, la classe, le genre et la racialisation n'opèrent pas toujours de la même manière. Et par exemple, voilà, la racialisation de Nicole François Rose comme jeune femme noire pouvait, alors qu'elle était donc représentante de la préfecture, dans d'autres situations, par exemple dans des réunions où il y avait des membres d'associations, c'était quelque chose qui venait l'aider et qui atténuait en fait son appartenance institutionnelle. Donc j'ai aussi essayé de procéder de manière en articulant ces différents principes de hiérarchisation et en ayant aussi à l'esprit ce que Philomena Essed appelle le everyday racism, donc le racisme ordinaire et cette façon dont l'expression du racisme peut se faire sous la forme du commentaire anodin sous des traits d'humour de commentaires anodins et comment ça exprime tout à la fois des formes sédimentées de racisme, de sexisme et de mépris de classe et comment ça peut jouer dans des remarques là pour le coup par exemple avec des personnes qui venaient de se faire naturaliser et qui apportaient des photos et voilà, moi je me souviens encore une fois d'une interaction entre Danielle Durand et une personne qui venait de se faire naturaliser, qui venait de faire demander sa carte d'identité, et Danielle Durand, pensant lui faire un compliment, lui dit « Votre photo est très jolie, mais le fond est obscur, et comme vous êtes noire, on ne vous voit pas. » Et ça passait, et il y avait plusieurs fois, ce genre de remarques, où par exemple, au moment des cérémonies de naturalisation, écorcher les noms, insister lourdement après sur le fait qu'ils sont imprononçables, etc. Donc, juste pour revenir dans les minutes qui restent sur les principaux résultats de mon travail. Alors, l'aspect politique de lutte contre les discriminations raciales, le constat, c'est qu'en fait, des fois maintenant, je me trouve même un peu optimiste dans les formulations choisies dans l'ouvrage quand je dis que c'est une reconnaissance inaboutie parce qu'on a, en y repensant, on a envie de dire qu'il y a eu un non-lieu, en fait. À la fois que ce soit dans la persistance d'un vocabulaire hésitant, sur la difficulté à qualifier les victimes, et puis aussi dans la manière dont Et là, peut-être que le verre était dès le départ dans le fruit, c'est-à-dire que quand il y a eu ce grand mouvement de reconnaissance de la question des discriminations raciales, si on lit les discours de Martine Aubry ou même dans les rapports du Haut Conseil à l'intégration, celui de 98 justement, qui marque un tournant dans la façon d'appréhender les choses, l'introduction de la question des discriminations raciales, elle est pensée comme l'outil qui va donner une impulsion nouvelle à la politique d'intégration. Et donc d'emblée, en fait, on lie antidiscrimination et à promotion de l'intégration. Or, en fait, si dans les deux cas, c'est des politiques qui visent à plus d'égalité, les présupposés ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que du côté de la politique de promotion de l'intégration, on part du principe, enfin, on voit en tout cas, dans les formes de différence, en fait, on va pointer d'abord les individus plus que le système, et on va partir du principe, sans doute, que les formes de particularisme sont une entrave à l'égalité, et que finalement, si on arrive à enrayer ça, le principe d'égalité formelle suffit à garantir l'égalité. Du côté de la lutte contre les discriminations, on va plutôt pointer les entraves, les difficultés du système, montrant en fait que l'exigence d'égalité, le principe d'égalité formelle ne suffit pas et qu'il faut trouver des leviers pour produire de l'égalité, augmenter en fait l'efficacité de la norme d'égalité. Donc, c'est sans doute ça ce qui a causé, ce qui a entravé la politique de lutte contre les discriminations. À cela s'est ajouté. Donc, déjà, voilà, c'est deux logiciels différents qu'on a essayé de faire fusionner. Or, par ailleurs, c'est-à-dire qu'en faisant le choix de mettre les discriminations raciales, enfin, la lutte contre les discriminations raciales au service de la politique d'intégration, ça a fait que cette politique a été perçue au départ comme une menace par toutes celles et tous ceux qui avaient, qui s'étaient constitués une expertise dans la politique d'intégration. Et en fait, on voit des évolutions parallèles entre le monde associatif, par exemple les grandes associations antiracistes comme SOS Racisme ou le MRAP, au départ ont été très réticentes et ont même, dans certains cas, saboté l'antidiscrimination. Par exemple, au moment où il y a l'année, je crois que c'est en 2001 ou en 2002, il y a l'année de lutte contre le racisme et contre les discriminations. Le 114 existe déjà. Et à ce moment-là, SOS Racisme s'approprie la question et n'oriente pas, par exemple, vers ce numéro, mais réoriente les gens vers elle. Mais plus par ailleurs, quand on regarde du côté des hauts fonctionnaires, que ce soit au sein du cabinet Aubry, quand elle a la façon dont il y a eu des blocages autour du rapport produit par Jean-Michel Bellorgé sur la constitution d'une autorité indépendante censée mener la lutte contre les discriminations, au sein même du cabinet de Martine Aubry, il y a eu des oppositions très fortes de la part de, et au sein de la DPM, aussi de la Direction des Populations et Migrations, de la part de personnes qui voyaient dans l'émergence d'une question des discriminations une menace à l'expertise qui s'était forgée en matière de politique d'intégration. Voilà. Et alors après, on peut réfléchir sur est-ce que c'est une espèce de, je sais pas comment dire, d'éthos républicain ou pas, mais il y a des choses même peut-être plus concrètes que simplement l'adhésion à des schémas de lecture. Il y a aussi tout simplement ce sur quoi on a acquis une compétence et puis voilà, on voit arriver autre chose et ça produit des crispations, mais aussi du coup un blocage. Après, quand on est passé de la CODAC à la COPEX, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on voit comment l'universalisation de la lutte contre les discriminations a permis de noyer la question raciale et dans une certaine mesure aussi la question du sexisme et des inégalités hommes-femmes, avec un usage très ambivalent de la question du handicap, qui permettait notamment de présenter les choses sous un aspect uniquement technique et de gommer toute la dimension politique, minoritaire, d'égalité, sans pour autant que les choses soient tellement plus faites hein, pour les handicapés. Mais du coup, il y avait quelque chose qui était produit comme une hiérarchisation des victimes légitimes de discrimination. Le modèle, l'opposition type, c'était la personne handicapée et le musulman, le musulman étant non légitime à se désigner comme victime de discrimination. Moi, je pense à un moment d'une réunion plénière de la COPEC où était présent le président de la HAL, à l'époque était Schweitzer. Et il y a le membre d'une association musulmane qui parle des questions d'accès de lieux de culte. Et tout le monde, il y a une espèce d'un seul coup dans la salle de brouhaha et de gens qui disent non, mais on est dans un pays laïque. Donc voilà, et d'un seul coup, sa remarque a été mise de côté. Et voilà, donc il y a de ce point de vue-là l'idée que cette catégorie-là ne mérite pas d'être. Désignée comme victime de discrimination, et en revanche, on brandit la question du handicap qui est commode, mais qui ne sert jamais pour le coup à ouvrir à des questions autour de la reconnaissance du pluralisme. Je pense aussi à la même réunion où il y avait une discussion sur la question d'allergie alimentaire. Ça n'a pas été du tout utilisé dans ce cas-là comme une brèche pour poser la question de plats qui permettraient de prendre en compte certains tabous religieux, certains interdits, etc. Donc. Et ça a été, bien sûr, après, c'est renforcé aussi par ce que j'ai pu dire voilà, sur la posture de certains agents qui, eux, ont eu l'impression d'emblée que quand on parlait de la question raciale, on ne parlait plus que de ça, et qui, dès que le champ d'action a été ouvert à d'autres discriminations, se sont... Ont utilisé cette ouverture pour minimiser l'importance de la conscience de la question raciale. Et en même temps, il y avait aussi un enjeu en termes de formation des agents sur la question des discriminations, puisque, et c'est d'ailleurs des choses que certains d'entre eux disaient, on n'a pas eu de formation sur ces questions, et je me souviens aussi d'une réunion au Conseil régional d'Île-de-France où deux de mes invités, donc Nicole François Rose et quelqu'un d'autre, un chargé de mission de la FACIL, ils avaient travaillé ensemble à un kit de formation pour les agents de l'État sur la notion de discrimination. Et donc elle vient présenter ça devant ses collègues et elle dit, alors ce qu'on essaie d'expliquer à nos collègues, c'est que la discrimination, c'est dans les deux sens, ça peut être de l'agent à l'usager et de l'usager à l'agent. Or, s'il peut y avoir des échanges violents, racistes dans les deux sens, ou assignatoires dans les deux sens. La discrimination, pour autant que c'est le refus d'un accès à un droit, c'est toujours dans un seul sens. Or, voilà, en arriver là, ça montrait le manque d'appropriation en fait, de la notion. De même que dans un entretien que j'avais fait au tout début de mon enquête, avec un procureur qui lui me parlait d'actes antisémite, de profanation de tombes et il me disait c'est de la discrimination. Et donc voilà, il y a eu une espèce de flou conceptuel, à la fois parce que quand le mot est apparu, c'est comme si on voulait le mettre partout, et en même temps, c'est aussi parce qu'il y avait un manque de formation générale qui s'est vu après dans la manière de s'approprier le droit et de faire de la lutte contre les discriminations. Il y avait cette idée qu'on va faire des documents, mais alors toute la question c'est on va faire plutôt des documents, des petites plaquettes pour rappeler leurs droits aux gens, avec aussi cette conception du droit qui est ce que Christine Boumiller appelle le modèle de protection légale, qui part du principe que c'est les victimes qui connaissent leurs droits et qui doivent faire en sorte que la justice soit faite. Mais c'était aussi une espèce de politique du constat, en disant ben voilà, on a quand même fait déjà pas mal de choses, et puis pas du tout de recours à l'efficacité l'effectivité pardon, du droit antidiscriminatoire. Et c'est pour ça qu'en utilisant aussi les travaux des Legal Consciousness Studies, j'ai qualifié la conscience juridique de ces agents comme une conscience en deçà du droit. Et du côté de la des pratiques de naturalisation, ce qui était très frappant, c'est de voir à la fois comment il y a une moralisation de l'accès à la nation qui sert aussi l'expression d'une vision racialisée de la nation, avec toute cette thématique du mérite qu'on articule à la faveur, puisque la naturalisation du point de vue du droit en France est une faveur, à la différence des autres modes d'acquisition de la nationalité. Mais paradoxalement, c'est une faveur qui récompense un mérite. Cette question du mérite traverse toute la procédure qui est pensée comme une mise à l'épreuve par les agents, que ce soit en faisant durer la procédure, que ce soit par les remarques faites aux postulants qui leur signifient qu'ils ne seront jamais assez bien, sur les formes de mise en doute de leur capacité à parler français, de leur capacité à être français, puisque ça s'exprime aussi au moment des cérémonies de remise des décrets de naturalisation, et avec ce jeu très ambivalent aussi entre une attente de motivation à devenir français, à connaître les droits qu'on va gagner, à être conscient qu'on rejoint une démocratie, etc., et en même temps une exigence de désintéressement, puisqu'il ne faudrait pas vouloir devenir français pour obtenir plus de droits. Et les postulants sont pris dans cette espèce d'oscillation qui apparaît explicitement dans les entretiens d'assimilation linguistique quand on leur pose la question des droits et des droits et devoirs du citoyen français, où la plupart du temps ils ne savent pas quoi répondre. Alors soit ils se lancent dans des grandes phrases de déclarations un peu grandiloquentes d'amour de la République, de grandeur de la France, etc., ou alors ils ne savent pas quoi répondre. Et en fait, ce qui était frappant dans l'enquête, c'est que quand moi je leur reposais la même question une fois qu'ils étaient naturalisés, on voyait le même type de doute c'est vraiment cette l'impression qu'il faut d'abord montrer une forme de désintéressement et qui est pris comme du désintérêt de la part des agents de préfecture, mais c'est une façon de montrer qu'on est dans un rapport désintéressé au sens du désintéressement à la France et qu'on veut devenir français juste par amour de la République. Et il y a cette question, enfin ces liens entre morale et racialisation, ça se perçoit aussi par exemple dans la manière dont, pour bien présenter, certains postulants et postulantes en l'occurrence procèdent à un gommage de certains marqueurs raciaux, par exemple comme se faire un brushing, etc. Alors bien sûr que quand on va dans une administration pour un moment important, on peut faire attention on se met en frais vestimentaires, mais il y avait quand même cette façon de gommer chez les femmes d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb certains marqueurs raciaux. Et après, voilà, il y a dans les formes d'assignation identitaire des postulants, il y a une vision racialisée de l'appartenance nationale qui apparaît notamment à travers la question de l'islam, que ce soit dans la façon dont on motive les demandes faites par des femmes voilées en utilisant toujours l'argument qu'elles ne parlent pas assez bien français, alors même quand c'est pas le cas. Alors là, c'est des choses qui ont été montrées aussi par le travail d'Abdelali Ajad. De revoir ça aussi par exemple avec la façon dont on agite la menace de la polygamie, alors que en fait on voit pas du tout de cas de polygamie se présenter, en tout cas moi j'en ai pas vu dans les cas que j'ai observés, et puis la manière dont les agents, quelle que soit leur posture, c'est un facteur d'identification très grand au service des naturalisations, puisque là, à l'intérieur de la typologie que j'avais faite, que ce soit les missionnaires ou les gardiennes de l'ordre national, ce qu'on brandissait comme comme figure repoussoire, c'est en effet la femme, soit la femme voilée, soit a fortiori la femme qui accepte d'être mariée à un polygame et qui est une espèce de figure à la fois de celle qui se remet complètement à son mari, qui n'a aucune et qui n'a aucune expérience, aucune idée de ce qui pourrait des autres situations possibles. Voilà, et peut-être pour terminer, il y avait deux éléments transversaux sur lesquels je suis revenue dans l'ouvrage, et d'ailleurs qui se sont ajoutés au moment de la rédaction de l'ouvrage, c'est le fait de pointer deux positions paradoxales qui sont celles du républicain minoritaire, et dans son lien à ce que j'ai désigné comme la dimension particularisante de l'universalisme républicain. Alors, ce que j'appelle républicain minoritaire, c'est en effet dans mes enquêtés, ceux qui, tout en partant et dans certains cas en thématisant leur travail, en le mettant en lien avec une expérience propre de l'assignation raciale, continuent en fait de croire dans les supposés colorblind et universalistes républicains. Et du coup, ils se retrouvent dans une situation qui est à la fois une tension et un paradoxe. Une tension parce que tous et toutes souhaitent affirmer leur engagement à lutter contre les discriminations raciales, mais ils doivent sans cesse donner des gages de leur adhésion à l'idéologie républicaine. Tous insistent ainsi sur l'opposition à la mise en place de politiques d'action positive qu'ils assimilent comme souvent à des politiques de quotas. Certains aussi vont même en venir à dire que leur engagement sur ces questions n'a pas du tout de lien avec leur propre expérience de l'assignation racialisante. En revanche, la dimension symbolique que recèle leur recrutement à tel ou tel poste leur paraît dans la majorité des cas porteuse de sens et, pour le dire vite, alors qu'ils ont du mal à la mise en place de mesures générales d'égalité qui prendraient en compte les discriminations raciales, ils refusent la mise en œuvre de mesures antidiscriminatoires générales, ciblant des groupes au nom du principe d'égalité formelle et de l'exigence d'universalisme abstrait, mais ils acceptent néanmoins d'être spécifiquement choisis pour donner un gage de colorblindness. Et ça tient aussi à la dimension particularisante de l'universalisme abstrait, c'est-à-dire la manière où quand on pense que l'unité du corps politique est fondée sur son homogénéité, ça met en droit ceux qui se pensent conformes à cette homogénéité à particulariser ceux qu'on perçoit comme différents. Et c'est la scène avec l'ouverture du livre, c'est-à-dire comment dans une préfecture, à un moment où c'est une réunion générale et on parle des questions de l'Aïd el-Kébir, tout le monde se retourne vers celle que j'ai appelée Warda Ben-Brahim, qui est déléguée aux questions égalité homme-femme, mais tout le monde se tourne vers elle parce qu'on sait qu'elle a des parents d'origine marocaine et on pense qu'elle va avoir des choses à dire sur l'Aïd el-Kébir. Ça c'était l'un des premier élément transversal dans les résultats de mon enquête. Et enfin, il y a cette question du secret public, c'est-à-dire en prenant cette notion à Michael Tosi, qui est un anthropologue qui a travaillé sur le conflit civil en Colombie et qui l'utilise pour parler du statut qu'a le discours sur la violence. Et le fait que tout le monde sait que c'est présent, mais qu'on n'en parle que par un silence proverbial, et qu'en fait, à chaque fois, quand ça émerge, ça concourt à plus d'enfouissement. En transposant ça, je me disais que, finalement, la croyance en la réalisation de la colorblindness dans le domaine, dans le contexte républicain, concourait en fait à cette... C'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à parler de discrimination raciale, finalement le résultat ça a été d'enfouir encore plus la question, tout en rendant possible parallèlement une banalisation de discours racialisants portés même par les pouvoirs publics, puisqu'au moment de mon enquête, c'était aussi le moment du débat sur l'identité nationale, ça a été le discours de Grenoble, tous ces moments où, d'une part, on a lié nation et question de l'identité avec, encore une fois, une conception racialisée, de manière sous-jacente en tout cas, et le fait de bloquer tout discours qui aurait une portée critique en utilisant ces instruments. Voilà, je vous remercie.